Jeanne, comtesse de Poitiers.
Le grand char de voyage, tout sculpté, peint et doré, glissait entre les arbres. Il était si long qu'il fallait parfois s'y prendre en deux temps pour lui faire franchir les tournants, et les hommes d'escorte mettaient pied à terre afin de le pousser dans les raidillons. Bien que l'énorme caisse de chêne fût posée à même les essieux, on ne sentait pas trop à l'intérieur les chaos du chemin, tant il y avait de coussins et de tapis accumulés. Six femmes y étaient installées un peu comme dans une chambre, bavardant, jouant aux osselets ou aux devinettes. On entendait bruisser les basses branches contre le cuir du toit. Jeanne de Poitiers écarta le rideau peint de fleurs de lys et des trois châteaux d'or d'Artois. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. « Nous longeons Loti, madame, » répondit Béatrice d'Hirson. « Nous venons de traverser aussi le château. Avant une heure, nous serons à Vitz, chez mon oncle Denis. Il va être bien aise de vous revoir. Et peut-être madame Mao y sera-t-elle déjà avec monseigneur votre époux. » Jeanne de Poitiers regardait le paysage, les arbres encore verts, les prés où les paysans fauchaient un regain rare sous un ciel ensoleillé. Comme il arrive souvent après les étés mouillés, le temps en cette fin de septembre s'était mis au beau. « Madame Jeanne, je vous en prie, ne vous penchez pas ainsi à tout moment, » reprit Béatrice. « Madame Mao a recommandé que vous preniez bien garde à ne point vous montrer lorsque nous serions en Artois. » Mais Jeanne ne pouvait pas se contenir. Regardez. Elle ne faisait rien d'autre depuis 8 jours qu'elle était libérée. Comme un affamé se gorge de nourriture sans croire qu'il pourra jamais se rassasier, elle reprenait par le regard possession de l'univers. Les feuilles aux arbres, les nuages légers, un clocher qui se dessinait dans le lointain, le vol d'un oiseau, l'herbe des talus, tout lui paraissait d'une exaltante splendeur. Lorsque les portes du château de Dourdan s'étaient ouvertes devant elle, et que le capitaine de la forteresse, s'inclinant fort bas, lui avait offert ses vœux de bonne route, en lui exprimant combien il s'était senti honoré de l'avoir eue pour hôte, Jeanne avait été prise d'une sorte de vertige. « Me réhabituerai-je jamais à la liberté ?» se demanda-t-elle. À Paris, une déception l'attendait. Sa mère avait dû partir précipitamment pour l'Artois, mais elle lui avait laissé son char de voyage ainsi que plusieurs dames de parage et de nombreuses servantes. Tandis que tailleurs, couturières et brodeuses se hâtaient de lui reconstituer une garde-robe, Jeanne avait profité de cet arrêt de quelques jours pour parcourir en compagnie de Béatrice la capitale. Elle s'y sentait comme une étrangère venue de l'autre bout du monde et émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Les rues. Elle ne se lassait pas du spectacle des rues. Les étalages de la galerie Mercière, les boutiques du Quai des Orfèvres. Elle avait envie de tout palper, de tout acheter. Encore qu'elle gardât ce maintien distant, contrôlé, qui avait toujours été le sien, ses yeux brillaient, son corps s'animait d'une joie sensuelle au toucher des brocarts, des perles, des bijoux. Et pourtant, elle ne pouvait chasser le souvenir d'être venue en ces mêmes boutiques, avec Marguerite de Bourgogne, Blanche, les frères d'Aunay. « Je m'étais assez promis en ma prison, si jamais j'en sortais, se disait-elle, de ne plus accorder mon temps aux choses frivoles. D'ailleurs, je ne m'y complaisais pas tellement naguère. D'où me vient cette fringale que je ne puis réprimer ?» Elle observait les toilettes des femmes, notait des détails nouveaux sur les coiffes, les robes et les surcots. Elle cherchait à lire dans les yeux des hommes l'impression qu'elle produisait. Les compliments muets qu'elle recevait, la manière dont les jeunes gens tournaient la tête pour suivre son passage, pouvaient la rassurer pleinement. À sa coquetterie, elle trouvait une excuse hypocrite. « J'ai besoin de savoir si je possède encore des charmes pour mon époux. » À vrai dire, ces 16 mois de détention l'avaient peu marqué. Le régime de Dourdan n'était en rien comparable à celui de Château-Gaillard. Jeanne y disposait d'un logis décent, d'une servante. Elle était autorisée à lire, à broder et même à se promener dans le verger du château. Elle s'était ennuyée intolérablement plus qu'elle n'avait souffert. Sous de fausses nattes roulées autour des oreilles, son cou mince soutenait toujours avec la même grâce sa tête petite, aux pommettes hautes, aux yeux dorés et allongés vers les tempes, ses yeux qui faisaient songer comme sa démarche, comme toute sa personne, au blond lévrier de Barbarie. Jeanne ressemblait bien peu à sa mère, sinon par la robustesse de la santé, et tenait plutôt, pour l'apparence, du côté du feu comte palatin qui avait été un seigneur plein d'élégance. Maintenant qu'elle approchait du but de son voyage, Jeanne sentait croître son impatience. Ses dernières heures lui semblaient plus longues que tous les mois écoulés. Les chevaux n'avaient-ils pas diminué leur train? Ne pouvait-on pas presser les palefreniers? Ah, moi aussi, madame, il tarde d'être à la halte, mais non pour les mêmes motifs que vous, disait une des dames de parage à l'autre bout du char.